Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous.
C'est parti. Salut David.
Salut Kamel.
Je suis ravi de passer du temps avec toi parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et on va parler de Checkout, on va parler un peu de ton histoire, de comment tu as rejoint cette aventure qui est quand même assez extraordinaire en Europe. Puis la première question relativement classique pour que tout le monde sache qui tu es, donne-nous un peu ton état civil, les grands sujets importants pour qu'on puisse t'identifier.
Eh ben écoute, en fait, je ne m'appelle pas David, je m'appelle David Alexandre,
David Alexandre.
Mon état civil. Okay. Voilà. Donc David Alexandre Finel, j'ai 32 ans. Et voilà, je suis on va dire entrepreneur dans l'âme. Et aujourd'hui, je travaille chez Checkout et donc ça fait bientôt 3 ans.
Super. Donc on va bien sûr regarder en long, en large, en travers ton histoire avec Checkout, ce que tu fais aujourd'hui, ton niveau de responsabilité, un peu l'accélérateur qu'a eu Checkout ces dernières années, parce que c'est assez vertigineux. Mais avant ça, on va revenir en arrière. Et puis, nous, on se connaît d'une autre vie, donc on va bien sûr parler de Sherpay, on va parler de plein de boîtes. Donne-nous un peu ton où est-ce que tu as grandi, c'est quoi ton histoire perso au début. Tu me disais juste avant le début que tu étais parisien, donc on commence à Paris. C'est quoi ton setup de départ?
Écoute, en fait, on commence à Neuilly-sur-Seine. Okay. Moi j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, donc dans un petit cocon. J'ai un petit frère, on a 14 mois d'écart, donc en fait j'ai grandi avec lui, quoi.
Okay.
Et voilà, j'ai jamais bougé de Neuilly jusqu'à mes 29 ans. Donc en fait, je me suis créé des potes.
Donc t'as grandi, t'as fait collège, lycée, Neuilly.
Ouais, maternelle, primaire, lycée à Saint-James.
Collège, okay, lycée Saint-James. Ouais, ok, très bien.
Et voilà, donc c'est un petit village, donc j'ai mes potes depuis la maternelle. Bah d'ailleurs, mon associé dans Sherpay, je l'ai connu à la maternelle.
D'accord, ok.
Et donc voilà, enfin j'ai plusieurs groupes d'amis, mais on a vraiment, tu vois, des amitiés longues.
Donc la mafia Neuilly, parce qu'il y a quand même...
La mafia Neuilly, ouais. T'as deux mafias Neuilly, t'as la mafia Pasteur, et t'as la mafia de l'autre côté de la Force, à Saint-James, plutôt pont de Neuilly et tout ça. Et en fait, moi, voilà, scolairement, j'ai toujours été fort en maths, en fait. Parce que j'ai jamais été bon en par cœur et dans les trucs comme ça. Et les maths, t'as pas trop par cœur. Donc voilà, en fait, j'ai toujours été fort en maths. J'écoutais en classe parce que ça m'intéressait, je trouvais ça intéressant. Et du coup, ça a été mon moteur dans toute ma scolarité. Parce que quand t'es fort en maths, tu fais S. J'aimais bien les sciences aussi. Voilà, et du coup, après... Bac S, et j'ai étudié à la fac, puisque j'avais pas trop envie de faire une prépa ou des trucs comme ça. J'étais assez, j'avais pas trop envie de m'enfermer.
Tes parents, ils font quoi? C'est quoi ton environnement familial? T'as des gens qui entreprennent? T'as des gens qui sont plutôt dans la culture? C'est quoi ton environnement?
Alors en fait, mon père était médecin, gynécologue, ouais. Accoucheur.
Okay.
Il est décédé quand j'étais petit, quand j'avais 12 ans. Et si tu veux, on en reparlera après, parce que j'ai un point de vue assez intéressant sur ça. Et ma mère, du coup, elle a fait des études de droit. Elle est docteur en droit.
Ouais.
Elle s'est occupée de nous quand on était petits.
Okay.
Et puis après, elle a recommencé à travailler parce que voilà, il fallait gagner de l'argent un petit peu pour la famille.
Ouais.
Et du coup, père médecin, mère. On va dire
juriste, avocate,
elle était directrice d'affaires juridiques et sociales dans des sociétés.
Okay.
Elle était aussi enseignante à l'ESSEC, à HEC, okay. etc. Par contre, ouais, j'ai mon oncle et ma tante qui sont entrepreneurs.
Ah.
Dans
quoi? Il sait quoi, eux?
En fait, mon oncle, il a commencé à être magicien quand il était petit. Et du coup, il faisait des tours de magie pour les anniversaires pour enfants, etc. Et ça commençait à bien marcher. Et du coup, il s'est dit, je vais en faire un business. Parce qu'en fait, il avait tellement de demandes que, il pouvait pas assurer toutes les demandes. Donc, en fait, il est devenu aussi un peu une centrale d'appel, quoi. Et naturellement, il a monté une société qui s'appelle Jour de Fête.
Ouais.
Qui était les premiers qui faisaient des anniversaires pour enfants vraiment bien organisés, avec voilà, des déguisements, des thèmes. Il avait la licence Astérix à l'époque, avec je sais pas si t'as déjà vu ça, mais les gens qui viennent et qui se déguisent avec des énormes têtes, ouais, un peu ouais. comme à Disney ou tout ça. Donc, il a évolué dans ça et en fait c'est venu naturellement et en fait ça a super bien marché. Et puis à un moment donné, il a revendu cette société et puis s'est mis dans l'immobilier et puis voilà, il a continué sa vie d'entrepreneur. Et ma tante, elle a monté des marques de bijoux.
Okay.
Bijoux fantasy. Et puis voilà, aujourd'hui elle continue, elle fait des ventes, mais voilà, elle a un cœur d'entrepreneur. Et c'est marrant parce que dans la famille, il y a pas eu trop d'entrepreneurs. C'était un peu les deux exemples d'entrepreneurs que j'ai eu. Et peut-être qu'il voilà. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais petit, moi, j'étais magicien aussi parce que moi, c'était vraiment une passion quand j'étais petit. Et du coup, j'ai aussi fait de la magie pour gagner de l'argent.
J'en ai pas fait mon métier. T'as bossé avec ton oncle ?
Non, mais il m'a donné des petits tips. Alors, c'est des trucs qui sont intéressants. Mais par exemple, il me disait quand tu fais un anniversaire et qu'il y a pas les parents, tu fais à un moment donné, tu dis aux enfants, voilà, j'applaudis et tout le monde crie, tout le monde rigole et tout le monde fait du bruit. Comme ça, les parents qui sont à côté, ils se disent, ah, c'est vraiment un mec génial et tout, il a éclaté mes enfants et tout. Donc, il m'a donné des petits tips, mais en fait, qui sont pas, enfin, c'est des tips de la vie, quoi, qui sont intéressants et qui sont business, ouais. Donc, il y a eu pas mal de petits trucs qui ont fait ça. Et voilà, et je pense, enfin, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, donc moi j'ai perdu mon père quand j'étais petit. C'est hyper dur. J'avais 12 ans, donc tu comprends pas grand chose à la vie. Et puis là, ça te remet sur terre. Et puis tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, ça te fait te poser plein de questions. Et puis après, je pense que c'est un peu un trait qui est pour tous les entrepreneurs. C'est qu'est-ce que tu fais des obstacles que tu rencontres dans ta vie? Qu'est-ce que t'en fais? Et il y a des gens qui vont plutôt être d'une partie un peu, on va dire, se morfondre sur eux-mêmes et puis en vouloir à l'univers et tout ça. Et donc, je pense que de toute façon, tout le monde passe par ça. Mais après, je pense que ce qui fait la qualité d'un entrepreneur, c'est de se dire, comment est-ce que je surpasse cette épreuve-là? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et avoir une vision beaucoup plus, ça prend du temps, mais beaucoup plus, on va dire, positive sur ça. Et aujourd'hui, moi, je pense que ça m'a donné une force dont je suis à la limite, enfin, j'apprécie qu'on ait pu me donner cette force. Donc en fait, un événement qui, je pense, la pire chose qui peut t'arriver dans ta vie, aujourd'hui, moi, je le vis comme quelque chose qui m'a fait moi-même et qui m'a donné une force voilà, je lâche pas, je suis toujours optimiste voilà, je me construis dans ma tête une histoire, un storytelling constamment. Pour me dire que l'obstacle que j'ai en face de moi, même s'il est très difficile aujourd'hui, il y a que demain que je me rendrai compte de ce qu'il a représenté dans ma vie. Et en fait, c'est un peu un mantra que j'ai, mais il y a que à la conclusion d'une histoire que tu sais vraiment ce qu'ont représenté chacun des épisodes de ta vie. Et donc en fait, quand t'as un truc qui t'arrive et qui est horrible, ça te fait te rationaliser parce que tu sais pas si demain ce truc horrible, tu te diras pas putain c'est le truc qui m'a déclenché, qui a apporté toutes ces choses positives dans la vie, quoi.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce que il y a un philosophe dont j'ai oublié le nom qui disait que les 20-25 premières années de ta vie, t'étais en train de construire une sorte de tapisserie, donc tu dessines quelque chose, quoi. Et puis le reste, la deuxième moitié de ta vie, finalement, tu retournes cette tapisserie et puis tu essaies de connecter les points. C'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est que finalement parfois tu passes par là en disant mais est-ce que ça avait du sens, oui non, et finalement tout ça est très connecté et c'est à la fin de l'histoire que tu dis mais finalement putain cette épreuve elle était difficile sur le moment mais in fine ça m'a fait grandir, quoi.
Exactement.
Donc t'adores les maths, t'as une histoire, donc j'ai l'impression que t'es dans un cocon très bienveillant et un peu d'insouciance mais et puis en même temps un peu aussi de conscience de ce que c'est que la vie, et donc à ce moment-là donc tu fais des études, tu continues en faisant des sciences et plutôt des choses rationnelles.
Voilà, exactement.
C'est quoi ton premier job, enfin à la fac tu fais que des maths, tu fais quoi, tu fais
MIA, en fait ouais je fais un je suis à la Sorbonne, c'est une licence qui s'appelle mathématiques appliquées au sens social, ouais. Donc MAS.
Ouais.
Ensuite, je fais un master qui s'appelait mathématiques appliquées à l'économie et à la finance.
Ouais.
Et ensuite, je fais un master à Dauphine, un master 2, qui s'appelle ingénierie statistique financière.
Okay.
Donc, je suis vraiment resté dans les maths. Et en fait, moi, j'étais animateur de colonies de vacances. Donc en fait tous les étés, voilà, on s'était même pas dit, je crois.
Ouais, moi aussi.
Mais donc voilà, tous les étés en fait, mon été il était réparti en deux trucs. Au mois de juillet, je faisais animateur en colonie de vacances. En fait au mois de juin, j'essayais d'avoir des petits boulots pour gagner un peu d'argent. Au mois de juillet, j'étais animateur de colonie de vacances et au mois d'août, je partais avec un sac à dos avec des potes en mode trip et voilà. Et en fait, je me suis retrouvé à la fin de mes études à me dire ah bah là, faut que je trouve un stage de fin d'études. Et les gens me disaient, mais vous avez jamais fait de stage? Et moi, j'étais surpris parce que, bah, je sais pas, ça m'était, je voyais qu'il y avait quelques personnes qui faisaient des stages, mais moi, en fait, j'étais fort en maths, donc j'ai toujours été, d'ailleurs, parmi les meilleurs de mes promos parce que, je faisais que des maths et, voilà, c'était le truc où j'étais fort, quoi. Et surtout, en fait, j'avais la différence des autres, c'est que moi, j'ai compris très tôt qu'il fallait écouter en cours. Parce que quand t'écoutes en cours, du coup, t'as rien besoin de faire chez toi. Quand t'écoutes pas en cours, bah, du coup, t'as deux fois plus de travail chez toi parce qu'en plus, t'as pas le professeur qui t'explique et donc t'es un peu seul devant ton livre. Et donc, en fait, je travaillais pas trop. À part, en troisième année, quatrième année où c'est les années importantes pour avoir un bon master 2. Je travaillais pas trop et puis je faisais des colos l'été, et plus je voyageais, donc j'étais un peu, une vie assez simple, un peu
insouciante.
Et puis j'avais pas, j'ai eu la chance aussi de pas avoir besoin de faire de job étudiant. Donc je vivais chez ma mère et la vie était assez simple en fait. Et puis après j'ai fait mon stage de fin d'études dans une boîte en fait qui vendait des logiciels pour les marchés financiers.
Ouais.
Parce qu'à la base en faisant ces études là, moi je voulais être trader ou quelque chose comme ça parce que ça rapportait bien. Et puis en fait, tout le monde disait oui, mais t'as pas fait de stage, donc nous on prend pas un stage de fin d'études. Et donc en fait, par hasard, je me suis retrouvé parce que j'avais une copine en classe qui m'a donné ce filon là dans une start-up qui s'appelait Trading Screen et qui est un logiciel qui permet en fait aux différentes parties prenantes des marchés financiers de se passer des ordres. Donc à l'époque, c'était au téléphone comme dans les films ce qu'on voit, et là c'était sur une machine. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études. Et ensuite de ça, j'ai été embauché, donc c'était mon premier boulot. Et en fait, très vite...
Embauché dans la même boîte ?
Ouais, okay. Exactement. Et en fait, très vite, après la learning curve du début, où en fait, t'as 6 mois, où tu comprends plein de trucs, t'apprends plein de trucs, j'ai commencé à me faire chier, quoi. Et genre, je me disais, en fait, c'est ça, travailler. En fait, c'est...
C'est l'horreur.
Ouais, et puis j'avais un mec que j'adorais, qui bossait avec moi, qui était un peu plus vieux, qui s'approchait de la retraite et qui me disait ouais moi j'attends ma retraite et tout ça, et j'ai dit ouais moi je vais pas attendre ma retraite maintenant quoi en fait. J'étais trop déçu en fait de ce que c'était de travailler en vrai. Et moi j'ai toujours aimé en fait bien réfléchir. Moi je prends du plaisir quand ma tête elle réfléchit vite, etc. Donc là je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire en fait. Et du coup mon meilleur ami Jonas est arrivé avec une idée à un moment donné.
Jonas, il faisait quoi les tout côtés?
Alors Jonas, lui, il était on a été jusqu'en terminale ensemble et on a ensuite pris des parcours différents. Donc moi j'ai fait des maths et lui il a fait des études d'architecture.
OK.
Et en fait, lui, il a eu un peu le même truc que moi, c'est que il me disait que ses études étaient exceptionnelles parce qu'en fait à l'école d'architecture, on t'apprend pas le métier que tu fais en agence d'architecture. On t'apprend vraiment qu'en fait c'est lui qui m'a expliqué comme ça, mais que créer un bien, c'est créer une expérience. Et en fait, tu dois faire attention à la luminosité, à la pression, à pas mal de choses qui font que, en fait, c'est ça qu'on t'apprend à l'architecture. Et en fait, on te fait aller dans des trucs beaucoup plus abstraits. Par exemple, donc lui, son projet de fin d'études, c'était quelque chose pour les crevettes, des écosystèmes souterrains pour les crevettes. Donc, juste pour te dire, ça n'a rien à voir avec l'architecture. Et puis, il a commencé à travailler en agence. Et il a eu ce même truc que moi, où en fait, on a eu des études où, moi, c'était moins excitant que lui, je pense. Mais en fait, on a commencé à travailler, on a été hyper déçus du monde du travail. En fait, on s'est dit, mais c'est horrible, quoi. Enfin, on va pas faire ça. Alors après, je pense que c'était... Enfin, je veux pas dire que nos entreprises étaient pas bien ou quoi. En fait, je pense juste qu'on n'était pas au bon endroit au bon moment et qu'en fait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Est-ce qu'il y a pas quelque chose de plus sympa à faire? Et en fait, Jonas, c'est une personne extraordinaire qui a toujours eu plein d'idées depuis qu'on est petit. Et en gros, on était partis en vacances ensemble et quand on avait voulu réserver nos billets de train ou nos billets d'avion, en fait, il y avait une des mères qui avait pris les billets d'avion ou les billets de train pour tout le monde, quoi. Et puis au dernier moment, il y a quelqu'un qui a pas pu venir. Et du coup, bah, il a dit, bah non, je vais pas payer un truc que je viens pas. Et en fait, ça avait posé des questions parce que du coup, en plus, c'était nos parents. Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc là, il a dit, mais c'est quand même fou quand tu vas au resto. Tu dis à la personne, est-ce que je peux partager l'addition? Et enfin, chacun paye avec sa carte ou avec des espèces. Et quand t'es en ligne, il n'y a pas moyen de faire ça. Et donc, il avait eu l'idée de créer une solution de paiement pour payer à plusieurs en ligne. Et c'est là donc il m'avait présenté cette idée. Et un peu plus tard, on a entendu parler du concours 101 projets qui était organisé par Niel, Simoncini, ouais, et Grandjean.
Et t'as participé à ça, toi?
Et en fait, j'ai dit, donc moi, c'était l'époque où je me faisais chier dans mon, enfin, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et j'en parle avec Jonas et je lui dis, bah, tu veux pas qu'on présente ton idée? Et il me dit, bah, vas-y, viens, on présente cette idée. Et donc, je dis, bah, il nous faut un nom, enfin, on a besoin d'en parler avec un nom, on va pas parler ça. Donc, j'ai dit, bah, partager paiement, SharePay. Et donc, j'ai dit, bon, on va pas prendre 100 ans, venez, on part sur ça, puis on verra plus tard, quoi. Et le nom est jamais parti, et voilà, et c'est comme ça que l'histoire de SharePay a démarré.
D'accord. Donc là, tu fais quoi? Tu fais des slides?
C'était un fichier libre. C'était un fichier libre, je me souviens. Et du coup, moi, je connaissais rien au monde digital, je connaissais rien au monde des startups. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis, ok, bon, bah, ils nous disent, faites un dossier libre. Je sais pas ce que c'est un dossier et tout ça. Donc, je me dis, bah, je vais voir des copains. Enfin, j'essaye de faire jouer mon réseau. Je dis, j'essaie de trouver un deck, quoi. Je savais même pas que ça s'appelait un deck. Je sais même pas si j'ai demandé un deck. Je dis, voilà, est-ce que vous avez un truc à me donner sur lequel je peux m'inspirer et partir de là? Et en fait, je me souviens, voilà, il y a quelqu'un que je connaissais, qui s'appelle Raphaël, et qui m'avait donné le deck de sa boîte. Et en fait, on s'était inspiré de ce deck, et on a présenté SharePay comme ça. Et donc, en fait, on a créé SharePay à partir de ce deck, en fait. Et c'est comme ça qu'on a présenté. On a fait partie des, je crois qu'il y a eu, je sais plus combien de dossiers sélectionnés, mais du coup, on a fait partie des 300 finalistes.
Ouais.
Et du coup, après, on avait une minute pour pitcher. Et la mère de Jonas, en fait, est metteur en scène. Et moi, j'ai toujours, à un moment donné, j'avais réfléchi à faire du théâtre. Mais en fait, je me suis dit, non.
Un côté de la magie.
Ouais, enfin, je me suis dit, est-ce que je tente à la fin de mes études? En fait, je m'étais dit, dans ma famille, c'est assez courant, quand t'as envie de faire des trucs, on te dit, ok, tu finis tes études et après tu fais ce que tu veux. Et j'ai fini mes études et je me suis dit, ok, là, déjà que j'ai foiré, j'ai pas jamais fait de stage et qu'on est en train de me challenger sur ça, est-ce que j'ai vraiment envie de me challenger et de commencer le théâtre maintenant? Et, bah, il se trouve que je l'ai pas fait. Mais du coup, j'ai toujours eu cet appétit. J'avais parlé avec la mère de Jonas et je lui avais dit, ouais, bon, moi, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et donc, du coup, on a préparé speech. On était à l'époque, en fait, on n'était pas que Jonas et moi, on était avec trois autres potes. Et du coup, bah, on a fait des présentations et sa mère a dit, écoute, je pense David, c'est toi qui vas pitcher. Et du coup, elle m'a coaché au pitch et j'avais adoré cette séance de coaching de théâtre que j'ai jamais eue. Et puis, et bah, elle s'est avérée payante puisqu'on a fait partie des 101 gagnants et du coup, on a gagné 25 000 euros. Et du coup, bah, Jonas et moi, on a dit, ok. On arrête nos boulots et c'est parti. Et les trois autres, en fait, on dit, nous, on n'est pas prêts à arrêter. Là, pour ne rien te cacher, ça a été la première gros coup dur de l'entrepreneuriat, qui est que, en fait, on avait des avis qui étaient pas alignés et que Jonas et moi, on était vraiment prêts à se lancer puisqu'en fait, on vivait chez nos parents, on venait d'avoir 25 000 euros qui, pour nous, ne paraissait une somme énorme. Et donc, nous, on était vraiment chaud pour se dire, bah, vas-y, all in, en fait, on n'a rien à perdre. Et eux, soit ils faisaient des études, soit ils étaient pas, on va dire, prêts mentalement, ou peut-être qu'ils étaient pas faits pour ça, mais ça a quand même créé des tensions parce que du coup, on avait gagné le concours ensemble, et ils sentaient qu'ils méritaient de continuer l'aventure avec nous. Et puis nous, avec Jonas, on a beaucoup discuté, on n'arrivait pas à tenir en travaillant à 100% et eux pas en 100%, et ça a été un petit peu dur, mais finalement, on a monté le truc avec Jonas et on a récupéré l'argent tous les deux.
D'accord, donc vous avez monté une boîte à deux?
On a monté une boîte à deux, ouais.
Ok. Vous récupérez l'argent de Niel, Simoncini et Co, là.
Ouais.
Qui prennent une participation ou comment?
En fait, c'était des obligations convertibles.
D'accord, ok.
Donc, ouais, assez simple et assez ferme aussi.
D'accord.
Okay. Et donc, à ce moment-là...
Là, on est à quelle
année? Là, on est en... Alors, donc, du coup, on gagne le concours en 2013. Ouais. Et on monte la société en avril 2014.
Ok.
Le 14 avril 2014. On se souvient parce que c'est un chiffre qui est assez marrant, 14-04-14. Ok. Et donc voilà, et puis en fait, bah, Alors, on était hyper, on attendait beaucoup de Niel Simon-Signé Grandjean. Et en fait, on n'a rien eu à part de l'argent. Et du coup, Jonas et moi, on commence à avancer. Et puis, on se dit, bon, bah, en fait, ouais, il faut qu'on ait un développeur déjà pour faire notre solution de paiement. Puis, sincèrement, on était, on appelle ça avec Jonas la belle naïveté, en fait. C'est, je pense que, et c'est hyper clé dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
C'est que pour te lancer dans un truc.
Pas être conscient de toutes les difficultés.
Non, parce que sinon tu le fais pas.
Ouais.
Et donc, nous, c'est ce qu'on appelle la belle naïveté. Et c'est vrai que naïveté, c'est un côté très péjoratif. Mais du coup, pour nous, c'est un côté très positif, en fait.
Ouais.
C'est un peu, bah, en fait, il savait pas que c'était pas possible et il l'a fait, quoi.
Ouais.
Et c'est un,
c'est la candeur.
Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, bah, en fait, là, on est quand même, enfin, tu sais, c'était assez marrant parce qu'on s'est retrouvé chez moi. Et en fait, bah, feuille blanche, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, en fait, on doit vraiment actionner le truc. Et ça fait peur, en fait. Quand t'es pas accompagné, en fait, nous, on pensait qu'on était, enfin, tu vois, on était encore jeunes dans nos têtes. Donc, on pensait, ouais, c'est comme une nouvelle partie des études appliquées, tu vois, comme si tu faisais des études. C'est un stage, ouais, avec appliqué, où on va avoir des gens qui vont nous aider. Et puis, en fait, on s'est dit, bah, on a peut-être besoin de ça, en fait. Et du coup, on a commencé à s'intéresser aux écosystèmes qui existaient à Paris, les incubateurs, les accélérateurs. Il a fallu comprendre la différence entre les deux, ce qui est pas trivial d'ailleurs. Mais du coup, on a vu le camping qui était à l'époque, on va dire, le top d'un point de vue accélération en France. Et avec Jonas, on se dit, bah, candidatons au camping. Et entre temps, donc, du coup, c'est là un peu où moi j'ai commencé à passer vraiment en mode entrepreneur.
Mais comment on vivait? Parce que t'as réussi à être au chômage ou t'étais où?
Ouais, moi j'étais au chômage.
Ah, toi t'as réussi à ça? Et Jonas,
j'étais au chômage. Jonas, il faisait des petites missions.
À côté?
À côté, ouais.
Okay.
En archi, tout ça. Et en fait, on vivait chez nos parents.
Okay.
Qui étaient ok. Enfin, on n'avait pas beaucoup de dépenses. On vivait pas comme des rois, mais on dépensait pas grand chose, quoi.
Ok.
Et en tout cas, moi, le chômage, ça m'allait. Et donc, donc moi, mon premier rôle d'entrepreneur, ça a été de trouver un associé technique, parce que on avait envie de faire une solution de paiement. Initialement, on s'était dit, est-ce que, et c'est marrant parce que Raphaël, dont je te parlais, qui m'avait donné son deck, lui, il avait une web agency ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, on lui avait dit, est-ce que tu peux nous faire le truc de paiement? Et puis, on était à deux doigts de signer. Et c'est marrant parce que j'avais appelé un entrepreneur avec qui on m'avait mis en relation, qui était l'un des fondateurs du kiosque.
Ouais.
Et il m'avait dit, non, tu peux pas dépenser ton argent comme ça, c'est mal dépensé, donc je te conseille de pas le faire. Et donc, je dis ok. Et d'ailleurs, cet entrepreneur m'avait aussi aidé sur les cinq associés. C'était compliqué de pas être les cinq à temps plein, donc il avait été aussi intéressant.
C'était Nathaniel ou?
Non, c'était, j'ai oublié son prénom. Je vois sa tête, mais j'ai oublié son prénom. Je suis très nul en...
Ça reviendra, c'est pas grave.
Enfin, ouais. Et enfin, bref. Et donc, du coup, on se dit, bah, il faut qu'on trouve un associé.
On embauche.
Et donc là, moi, je passe en mode action. Et là, je remue ciel et terre pour trouver un associé. Donc, on trouve un associé avec qui on collabore. Le mec est, en fait, freelance, fait des web apps. Il a déjà lancé des petits projets. Il trouve que notre solution est bien et il dit ok, vas-y, moi je suis chaud pour rentrer dans l'aventure. À l'époque, on allait voir beaucoup The Family, donc on essayait de se familiariser avec les écosystèmes, et The Family à l'époque faisait pas mal de choses. Et donc on se dit on parle avec, je crois qu'on avait parlé avec Oussama.
Ouais.
Et lui il disait ouais, vous devriez faire un tiers.
Ok.
On dit fair enough, on a gagné un peu d'argent mais on est encore au début, on n'a rien fait,
go.
Et en fait, donc en parallèle de ça, on se dit ouais, il nous faut vraiment un accompagnement. Et donc là, on candidate au camping tous les trois. Et en fait, on fait partie des sélectionnés du camping. Et donc juste là pour la petite histoire, donc en fait, on gagne sans un projet, on est au top. On quitte nos boulots, on se rend compte feuille blanche et tout là.
C'est chaud.
On se dit qu'est-ce qu'on fout là, putain. Est-ce qu'on a vraiment pris le bon chemin? On remonte parce qu'on est pris au camping. Et là, on arrive. Premier truc, il démonte notre solution. Genre en fait
ouais, mais parce que il y a quoi qui existe là à ce moment-là, il y a un site web.
Donc à ce moment-là t'as Litchi. Oui, ah pardon,
non,
sur le marché.
Non,
des slides.
Vous c'est que des slides. OK.
Et donc en fait on est en train de travailler sur on est en train de travailler sur une application mobile.
OK.
Et en fait, alors assez tôt dans l'aventure, quand on avait commencé à faire notre solution de paiement, on s'était rendu compte que en fait, t'avais le problème de la poule et de l'œuf. Qui était que, donc nous c'était une solution pour payer à plusieurs en ligne, donc un espèce de PayPal pour payer à plusieurs en ligne. Mais ouais. Du coup, d'un côté tu dois avoir des marchands qui propose ta solution de paiement à plusieurs. Mais quand nous, on contactait les marchands, ils nous disaient, bah ouais, mais vous avez combien d'utilisateurs? Et combien d'utilisateurs ça va me ramener d'ajouter cette solution de paiement? Nous, on n'en avait pas. Et donc, on pouvait pas avancer. Et de l'autre côté, bah, t'avais le fait que, bah, quand on voulait aller chercher des utilisateurs, ils nous disaient, bah, on peut payer avec, enfin, on peut payer où avec votre solution? Et on pouvait payer nulle part, parce que du coup, c'était ça le problème, quoi. Et donc, en fait, on s'est dit, on va choisir un côté. Et on a choisi le côté consommateur.
D'accord.
Et pour faire ça, en fait, c'est là où on s'est dit, il faut qu'on puisse faire une solution de paiement qui soit acceptée par le plus grand nombre de marchands. Et en fait, c'est ce que fait Visa Mastercard. En fait, c'est, il faut qu'on ait accès à un réseau de marchands. Et en fait, t'as les réseaux de marchands, enfin, t'as les marchands qui sont sur les réseaux Visa Mastercard. Et c'est comme ça qu'on a commencé à évoluer d'une solution de paiement qu'on avait le choix à mettre soit en marque blanche et donc effacer la marque Sherpay. Mais on était jeunes, on était fougueux et donc nous, on voulait faire du B2C. Et donc, on s'est dit, OK, on prend le côté consommateur et du coup, il faut qu'on s'adosse sur un réseau de marchands existants. Et là, on a commencé à s'intéresser à Mastercard, aux cartes, etc. Et donc, quand on est arrivé au camping, en fait, on était à deux doigts de dépenser encore une fois tous nos 25 000 euros pour payer un prestat qui nous faisait une génération de cartes virtuelles qui faisait que, en fait, si nous, tous les deux, on avait envie de partager quelque chose, on ouvrait l'application Sherpay, on disait on voulait dépenser 50 euros. Instantanément, il y a 25, enfin, en fait, chacun loadait 25 euros sur le compte, et en fait, c'était comme une cagnotte, sauf que la cagnotte, tu pouvais la dépenser en temps réel, avec une carte virtuelle. D'accord, que tu avais, okay, sur ton portable.
Okay.
Et donc, c'est avec ça qu'on est rentré au camping, et on était à deux doigts de signer le contrat, et ils nous ont dit, en gros, calmez-vous, ce que vous faites, c'est pas top, laissez-vous porter par le camping, on va vous challenger beaucoup, et on espère qu'après, la solution sera plus la même. Donc, donnez-vous 2-3 mois.
OK. Ce qui est acceptable.
Ce qui est très acceptable. Et donc, on se dit OK. Et donc là, en fait, on commence à être familiarisé avec deux notions clés pour nous. Le Lean Startup et le Design Thinking, qui ne s'appelait pas Design Thinking à l'époque. Enfin, on nous appelait pas Design Thinking. Le Lean Startup s'appelait Lean Startup. Et donc, en fait, on commence à avoir plein de gens qui nous expliquent ça et qui nous disent « Allez dans la rue ». Et valider que les gens vont utiliser votre solution. Et là, en fait, on va dans la rue.
Est-ce qu'en parlant de ça, tu creuses toute la partie stack technique, qu'est-ce qu'il y a derrière Mastercard, qui sont tous les opérateurs, les intermédiaires, comment on construit la solution, ou c'est une boîte noire et tu sais même pas comment ça marche et tu veux pas, ça t'intéresse pas.
Alors en fait, on avait deux providers dans l'équation. On avait MangoPay.
Ouais.
Donc qui est une solution pour les marketplaces initialement, mais qui est aussi utilisée pour du paiement entre particuliers. Donc par exemple, c'est ce qu'il y a derrière Pumpkin,
ouais.
Mais aussi Vestiaire Collective, Ulule et tout ça. Et donc en fait, c'était grâce à ça qu'on créait cette cagnotte pour nos utilisateurs. Et en fait, après, on travaillait avec un autre partenaire qui permettait de générer des cartes bleues virtuelles et qui me permettait, en fait c'était un peu comme Litchi avec une carte, et donc qui permettait de dépenser l'argent,
ouais,
qui avait été collecté avec Litchi.
Ouais.
Enfin, avec donc du coup Mango. Et donc voilà, ça s'arrête là.
D'accord.
C'est-à-dire que moi j'ai une solution pour accepter les paiements et une solution pour émettre des cartes virtuelles. Okay. Mais du coup, oui, je commence à rentrer dans ce monde et cette boîte noire qu'est le paiement. Et aujourd'hui, on parle de paiement, enfin c'est devenu
mainstream.
À l'époque, Stripe, ça commençait à être à la mode, la solution de paiement de tout le monde, mais c'était loin d'être
c'est
le cas.
Il, ouais,
n'y avait pas autant de données sur Internet. Donc moi, j'ai commencé en fait en là, donc on était en 2014. C'était pas le même monde, quoi. Mais du coup, ça m'a quand même fait me poser pas mal de questions, parce que le monde était, enfin, il n'y a pas toutes les boîtes qui existent aujourd'hui pour faire ce qu'on aurait voulu faire en deux clics, quoi. Donc c'est un peu comme, j'apprends à calculer avant d'utiliser une calculette. Même si apprendre à calculer, c'est pas aller très très loin, mais c'est quand même se savoir se poser des équations de base, quoi. Et du coup, on est au camping, ils nous font faire aller rencontrer des gens dans la rue. Donc je me souviens, on était rue Montorgueil. Et on rencontre des gens, et là c'est la douche froide, parce qu'en fait les gens ils nous disent, ouais, en fait moi quand je pars en voyage, bah il y en a un qui paye, mais de toute façon après on fait un tri-count et ça nous sert très bien. Moi en fait quand je paye mes billets de train, je paye avec ma carte premier parce que j'ai des assurances derrière. Je voyage plus avec mes copains, ou ça arrive une fois par an. Et en fait on se rend compte qu'en fait le besoin est pas très très fort, et qu'en plus de ça, même s'il est très fort, il y a pas un taux de récurrence très rapide parce qu'en fait tu le fais une fois par an. Donc du coup, il faut que tu sois aussi là d'un point de vue marketing au bon moment pour que la personne, quand elle doit t'utiliser, elle t'utilise. Et puis après, elle va t'utiliser une ou deux fois. Et puis après, bon, en général, tu te mets en couple ou comme ça et tu fais plus ce genre de choses.
Okay.
Mais donc, on essaie vraiment de rencontrer plein de gens. Et là, on est à la FNAC. En fait, on avait pris, on était parti un peu dans tout ce qui était sharing economy, acheter des jeux vidéo à plusieurs. Donc, on va à la FNAC, on demande aux gens qui regardent les jeux vidéo, est-ce que vous auriez pas envie de les acheter à plusieurs? Et puis, on va à la billetterie, puis on regarde, on essaie de voir, parce qu'on se dit, oh, tu vas jamais à un concert tout seul ou au théâtre tout seul, t'as toujours des gens. Et en fait, un peu par hasard, on tombe sur une fille qui retire deux places de concert et on lui dit, écoutez, on peut vous déranger? Ouais, bah, c'est pour qui ces deux places? Et elle nous dit, bah, en fait, c'est pour moi et mon mec. Et on dit, ok. On dit, on peut vous demander par quoi vous avez payé? Enfin, comment vous avez payé? Elle dit, c'est super marrant que vous me posiez la question. J'ai payé avec la carte du conjoint qu'on vient d'ouvrir, là, il y a deux semaines, quoi. Et je dis, ah ouais. Mais du coup, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et tout ça. Et elle dit, bah ouais, en fait, on est ensemble depuis 2 ans. On a vécu ensemble il y a 1 an. Mais au début, ouais, on se posait pas trop la question. On faisait un peu une fois toi, une fois moi. Et puis à un moment donné, bah, on a eu beaucoup trop de dépenses, et puis on s'est dit, bah vas-y, ouvrons un compte joint, quoi. Et donc nous, on la laisse partir, on se regarde avec Jonas et on se dit, mais c'est vrai qu'on pense qu'au groupe de potes, mais en fait, les couples, il y en a vraiment beaucoup des couples. Et donc en fait, là, je sais pas, c'est un peu le... Franchement, c'était hyper dur, le début du camping, ça durait 4 mois, enfin en fait, ça durait 6 mois pour nous. Mais en gros, les 2 premiers mois ont été hyper durs, jusqu'à ce qu'on trouve ce truc-là. Et là, on se dit, mais ouais, en fait, intéressons-nous au couple. Et là, on commence à faire des études où on devient des sociologues du couple. On voit l'impact de la liberté de la femme sur le couple, le nombre de divorces qui est énorme, le fait que les gens vivent ensemble avant de se marier. Enfin, en fait, on comprend ce que c'est le couple moderne et on comprend que le compte joint avait été ouvert à une époque archaïque où les femmes n'avaient même pas le droit d'ouvrir de compte bancaire, mais qu'en fait c'est encore la solution que les gens ont un peu détournée, qui avant était le compte de la famille et qui après a évolué vers parfois un troisième compte, parfois quelque chose comme ça. Et donc on s'est dit, bon, y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Ouais. C'était à l'époque où il y avait Compte Nickel qui venait de commencer, donc en fait N26 devenait de commencer, ça s'appelait Number 26 à l'époque, Revolut aussi. Donc on était un peu dans cette ère fintech, le mot fintech commençait à être utilisé. Et donc, on s'est dit, ouais, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Sherpay, où à la base, on a commencé en bootstrapant quelque chose pour voir si on pouvait aider les couples. Et puis, on a vu que ça marchait. Et là, on a eu l'idée du split instantané. Et donc, l'idée d'une carte de paiement qui permet, lorsque tu réalises un achat, de répartir la dépense sur plusieurs comptes bancaires. Et donc, de faire en sorte que si moi, je paye 100 euros, instantanément, il y a 50 euros qui est débité sur mon compte et 50 euros qui est débité sur le tien.
D'accord. Et là, le retour du camping, c'est de dire, ah ouais, là, c'est intéressant.
Voilà. Donc, en fait, le retour du camping est, ouais, c'est super intéressant. En plus, on commence à, en fait, on avait la chance d'avoir un mentor qui était, qui s'appelle Cécile, et qui avait accompagné un peu Evian, de mettre les bébés au centre de leur campagne. Et en fait, elle nous accompagne sur ça. Et c'est là où on trouve le fameux faites l'amour, pas les comptes. Qui est resté. Et en fait, on commence à se dire, en fait, ouais, ça peut être génial d'avoir ce côté disruptif autour du couple, de pouvoir parler au couple de manière différente. Et puis on commence à partir, et en fait là c'était ça a commencé à repartir. Donc en fait, en rentrant au camping, on était au top. Premier mois, on était au fond de notre vie, et on sort du camping avec une ambition de fou, et on se dit, nos utilisateurs nous donnent vraiment des retours de fou. Et là vient 1 an et demi de passer d'un petit truc bootstrapé où en fait on avait acheté des cartes prépayées en tabac, on donnait pas accès à l'interface de ces cartes prépayées à nos utilisateurs, mais on leur donnait juste accès à un mail, et donc tout se passait par mail. Et en fait, on s'était dit, et c'était grâce au camping, commencez avec vraiment le cœur de votre promesse et créez des features au-dessus, mais n'allez pas vous perdre dans des features et oublier votre promesse. Et donc on avait vraiment commencé avec un serveur mail où en fait où tu payais avec ta carte, et dès que t'avais payé, t'avais une notification qui te disait, enfin un mail qui te disait, ouais, il y a eu ce paiement qui est arrivé, et si tu voulais charger ton compte, t'avais juste un RIB, et donc t'envoyais de l'argent, et nous on t'envoyait un email dès que t'avais reçu cet argent.
Ah ouais.
Et tu pouvais envoyer solde par email pour avoir ton solde.
Ah ouais.
Et ça marque, enfin c'était vraiment un truc, c'est ça aussi que nous a appris le camping, c'est comment est-ce que tu fais...
Donc il y avait des gens très motivés pour faire ça, qui ouais. Fonctionnaient comme ça.
Ouais. Parce que en fait, l'expérience était simple, c'est qu'on leur disait voilà, t'as une carte, t'as un RIB, c'est un peu comme un porte-monnaie mais qui prend la forme d'une carte. Donc t'envoies de l'argent sur cette carte et vous payez et ça a marché. Et en fait, on l'a donné à 10 personnes parce qu'en fait, on prenait des risques parce qu'on faisait pas tout en temps réel. Donc si tu pouvais payer, que nous on n'arrive pas à te débiter. Donc enfin bref, on commençait petit et puis on n'avait pas. Enfin, dans le système, c'était des cartes prépayées, donc il fallait que nous, on donnait une carte avec 200 euros dessus, mais toi, tu savais pas qu'il y avait 200 euros. Donc, tu dépensais avec cette carte-là, et nous, on essayait d'aller débiter ton compte et celle de l'autre personne du couple. Et du coup, si on n'arrivait pas à le faire, bah, on avait perdu notre argent. Mais on le faisait avec des gens avec qui on avait confiance, et en fait, le but était vraiment de valider l'expérience. Ça nous a pas coûté très cher, et même si on perdait 50 euros, honnêtement, c'était pas très grave. Et mais ça nous a permis de valider, parce que sur les 10, t'en as deux qui ont commencé à l'utiliser et se sont jamais arrêtés d'utiliser. Et donc on était vraiment, enfin, franchement, c'était un POC qui nous a, t'imagines, tu fais un POC, t'as des personnes qui l'utilisent. Genre, nous, on était vraiment contents. Et puis les autres, soit ils ont jamais fait le premier chargement, soit ils ont fait le premier chargement mais ils ont jamais rechargé, et c'est là où on s'est dit que le chargement était une peine qu'il fallait qu'on solve, et donc on en est venu à cette carte qui partage les dépenses instantanément, et du coup on l'a faké en améliorant le POC sur 300 utilisateurs, donc 150 couples, et là on a eu des retours de ouf. Et on s'est dit, OK, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, moi, en fait, on a divisé la boîte en deux. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au paiement. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour make it happen? Et Jonas a commencé à s'intéresser que sur l'expérience utilisateur. Et à ce moment-là aussi, on a rencontré, donc, le troisième cofondateur qui est devenu CTO. Ce qui se trouve que le premier CTO qu'on avait quand on est rentré au camping, dès qu'on a commencé à pivoter, il venait plus. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, c'est pas un cofondateur, en fait, c'est juste un développeur. Et par contre, donc, on s'est séparé de lui. Donc, c'était hyper dur aussi. Et ensuite, on a rencontré, donc, le CTO de Sherpay. Et on a continué à avancer tous les trois. Et en fait, moi, j'ai mis un an et demi à créer la structure pour le faire de manière propre. Après avoir été, je me souviens voir le DG de Mastercard France à l'époque, où j'avais présenté mon idée. Il m'avait dit, bah, c'est très bien, mais c'est impossible à faire.
Techniquement?
Ouais.
Ah bon?
Et moi, je disais, mais je comprends pas, en fait. C'est assez simple, en fait. Si moi, je peux recevoir une demande d'autorisation à chaque fois qu'il y a une carte qui est utilisée, je prends cette demande d'autorisation, je l'associe au couple, j'essaie de débiter le couple, j'arrive à le débiter, j'approuve, j'arrive pas, je décline. Enfin, ça me paraissait hyper simple. Et parce que ça me paraissait simple, on en revenait au truc, bah, j'ai réussi à le faire. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, franchement, vous étiez cinq pèlerins dans un bureau. Vous avez réussi à le faire, je comprends toujours pas. Et en fait, c'est vraiment parce que moi, je prenais tout le monde pour des cons et je disais mais pourquoi ils sont tous aussi cons? Et en fait, bah ça m'a permis de le faire et après de comprendre qu'ils étaient pas si cons que ça, en fait.
Et est-ce qu'à ce moment-là, parce que moi j'ai un souvenir de toi qui pitchait au truc de Publicis là.
Ouais.
Ça c'est avant, après c'est dans ces eaux-là.
C'est une bonne question. J'ai un peu du mal à remettre ça. Mais ah ouais, non, si Publicis, en fait nous on a lancé la solution en juin 2016.
Ouais.
Et en fait, on a gagné Publicis en janvier 2016 ou un truc comme ça, et du coup, on avait utilisé Publicis pour faire notre site web.
Ah oui, c'est ça, c'est pour marketer le truc un peu.
Ouais, pour nous aider à marketer le truc, pour nous aider aussi sur le product marketing. À l'époque, je savais pas si c'était ça, mais le product marketing,
ouais. Là, la communication. Il y avait une liste de personnes en attente.
Voilà.
Moi, je faisais partie des premiers, donc de cette version-là, en fait, post-Publicis, où je m'en rappelle très bien. Tu vois, j'étais dans le 17e avec ma femme. Je dis, écoute, il y a un truc super. On avait chacun nos comptes bancaires. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était toujours un peu le bordel pour savoir qui doit rembourser quoi, machin. Et c'est toujours un peu relou à faire, et donc je te parle de ta solution, quoi. Et je dis, bah écoute, c'est super simple, t'as une carte. Et puis en fait, même on en a demandé deux, parce qu'en fait moi je voulais ma carte, et puis elle me dit, ouais, bah faut être comme ça, toi t'as ta carte, on a chacun notre carte. Puis j'avais reçu ma première carte, puis je me rappelle, vous aviez un problème avec Société Générale, parce que ça passait pas, il y avait un conflit avec SG, parce que j'étais à l'SG. Et je t'envoyais des textos en direct en disant, s'il te plaît David, débloque moi le truc, je comprends pas, j'ai vendu ta solution, ça marche pas ton truc. Mais t'étais rentré vraiment deep dive sur la partie bancaire, quoi. C'est-à-dire que donc tu vas nous parler un peu de toutes les solutions de l'époque, Bankable et tout ça, comment vous avez réussi à créer une vraie carte de paiement dans laquelle tu recevais chez toi par la poste une carte que tu pouvais utiliser n'importe où, quoi.
En fait, c'est ça, c'est vraiment ça que j'ai fait pendant un an et demi. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les bank as a service ou les payment as a service. Qui veut faire sa carte, honnêtement, c'est pas extrêmement cher. Et il y a des solutions en fait qui agrègent différents providers et qui te le font très très rapidement.
À l'époque, c'était pas ça.
À l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, c'était pas du tout ça. Voilà, et c'était le marché était hyper fragmenté. Et donc en fait, nous, on avait utilisé une boîte qui s'appelait Anytime.
Ouais.
Qui existe encore, qui s'est fait racheter par Orange, Orange Bank. Et en fait, c'est avec eux qu'on avait fait le POC, puisque Anytime, c'était des cartes que tu pouvais acheter en ligne, des cartes prépayées, un peu comme celles qu'on voit en tabac, comme Compte Nickel. Donc c'est avec eux qu'on avait fait le POC. Ensuite de ça, j'avais essayé de faire la solution avec eux. C'était un peu compliqué. Eux, ils utilisaient Bankable comme supplier. J'avais commencé à parler avec Bankable, mais ils me demandaient des prix astronomiques. Donc en fait,
en front,
frais de setup ou des monthly fees. C'était vraiment trop élevé.
Et t'avais levé de l'argent à ce moment-là? C'était quoi le contexte de la...
Donc en fait, moi, j'avais été assez malin parce qu'on était vraiment pas mature pour lever de l'argent. Et donc, en fait, à l'époque, je sais pas si c'est exactement pareil aujourd'hui, mais il y avait des moyens d'avoir de l'argent. Donc on avait eu, en rentrant au camping, un prêt de la BNP. Ensuite, grâce à ça, on avait eu Scientipole Innovation.
Ouais.
Donc on avait eu 60 000 euros en plus comme ça. Donc on avait eu... Ouais, des prêts, des subventions Bourse French Tech, des subventions avec la BPI, on était monté entre 150 et 200 000 euros. Et en fait, on n'avait pas de dépenses en fait, parce que on se payait pas. On avait été pour la petite histoire, ma grand-mère était décédée presque quand on a lancé Sherpay, donc en fait, on était chez elle avant que l'appartement soit vendu, donc c'était nos bureaux, donc on payait pas. Ensuite, on était au camping. Et donc du coup, on payait pas. Et ensuite, à la fin du camping, on était allé à Paris Incubateur. Et du coup, on payait pas non plus. Et donc en fait, voilà, c'était un peu, ça prenait du temps. Mais le marché était pas le même. C'était vraiment difficile de lever en seed en France. Et en fait, il y a des gens qui disaient qu'ils faisaient du seed, mais personne faisait de seed en fait en France. Donc c'était difficile en vue de notre track record et en vue du fait qu'on faisait une boîte B2C, qu'on générait pas de revenus. C'était compliqué de lever de l'argent. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a survécu. Et donc du coup, Jonas avait pris, on avait commencé à bosser avec des internes, des alternants, puis on avait notre CTO qui codait pas mal. Et puis après, l'argent est vraiment été mis en place pour payer, donc
pour
produire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que pour émettre nos cartes,
ouais,
il a fallu qu'on fasse appel à deux entités, une qui s'appelle un émetteur. Et donc c'est une société régulée qui est membre de Visa ou de Mastercard et qui te permet donc d'émettre des cartes. Mais en fait, c'est juste d'un point de vue, il y a pas la technique. Et donc en plus de ça, t'es obligé de faire appel avec un processeur qui lui est connecté techniquement à Visa ou Mastercard et c'est lui qui te permet de créer des cartes avec des API. Donc on avait ces deux acteurs là qui avaient des frais de setup non négligeables. Et des minimum monthly fees non négligeables. Et donc, c'était ces prestataires-là qu'on utilisait sur Issuing. Ensuite, on avait un prestataire pour la fabrication des cartes. On avait un prestataire pour faire le KYC, donc tout ce qui est onboarding. Je suis désolé, je parle beaucoup en anglais parce que je connais pas ces mots en français, mais on a le onboarding de nos utilisateurs. Donc, il fallait qu'on demande les pièces d'identité. On avait des sociétés qui vérifiaient que les pièces d'identité étaient valides. Et de l'autre côté, en fait, pour débiter les comptes de nos utilisateurs, à partir de juin 2016, on a utilisé Checkout.
D'accord.
Et en fait, Checkout à l'époque,
on y vient,
était en fait, si tu veux la vérité, on était supposé utiliser Stripe, et à 3 jours du lancement. Trois mois du lancement, Stripe me dit finalement la compliance ne veut pas bosser avec vous. Et c'est vrai qu'on avait un setup un peu, on va dire
exotique,
pas dodgy mais exotique. Et donc là, franchement, c'était très compliqué parce qu'en plus nous, lancer une campagne marketing, ça prend du temps quand c'est un lancement. On avait une boîte de presse qui bossait avec nous. On avait fait une vidéo dont je suis encore très fier et que j'utilise encore aujourd'hui pour montrer ce que peut être du product marketing. Et on s'était inspiré, voilà, de ce qui se passait avec Sandwich Video aux États-Unis, mais en fait, bon, j'en suis encore très très fier. Aujourd'hui, elle est encore très moderne alors qu'elle a, elle a 6 ans, ouais, 2016 à ouais 2022, 16 ans. Et donc en fait, on était vraiment pas bien. Et là, bah du coup, je vais sur Internet et j'essaie de comprendre le ce milieu du paiement que j'avais moins fait et un peu par, enfin moins étudié que le côté émission. Et par hasard, je tombe sur Checkout. Et donc je me souviens, c'est Antoine, je crois que j'avais appelé Checkout, et c'était Antoine Nouguet, donc qui est aujourd'hui head of sales monde de Checkout, et en fait qui avait décroché le téléphone, je crois qu'il venait d'arriver chez Checkout, et c'est devenu mon sales, et en fait on a commencé à construire une belle histoire avec Checkout, et donc voilà, on a lancé le truc en juin, on a eu de très 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 bons retours, franchement ça marchait super bien, les gens adoraient la solution. C'était pas simple parce qu'on était une petite équipe. Moi, je m'occupais du support. Enfin, franchement, on vraiment bootstrappé, mais sauf qu'en face, les gens, par rapport à la vidéo, par rapport à tout ce qu'on avait fait d'un point de vue marketing, ils s'attendaient pas à que derrière, tu vois, c'est un peu comme quand tu vois Mission Cléopâtre et que t'as, enfin, Astérix Obélix Mission Cléopâtre et que t'as l'ascenseur. Et en fait, non, derrière, c'est des gens qui tirent la ficelle pour faire en sorte que l'ascenseur monte. C'était un peu pareil, Sherpé. Et les gens étaient vraiment choqués. C'était marrant. Je me souviens, on avait des problèmes. Bah, quand il fallait diviser en deux un montant impair, bah du coup on gardait le centime, mais ça nous... de toute façon on perdait de l'argent dans tout, et puis il y a quand même des gens qui râlaient, ouais vous êtes des voleurs,
c'est vrai,
c'est comme ça que vous gagnez de l'argent, enfin c'était assez marrant, mais en fait bah ça m'a appris le paiement, ça m'a appris voilà d'y aller.
Et les gens, enfin il y avait un abonnement au départ, je crois.
Non, c'était gratuit au début.
C'était gratuit,
ouais.
Et après vous avez basculé en
on a basculé
nous,
en
on a payé, hein. Ouais. On était tellement finalement c'était dans notre flow, quoi, c'était même pas un sujet. C'était, je sais plus combien, peut-être 20 euros par an.
Ouais, c'était plus, je crois que c'était 3,50 € par mois par carte. Et voilà, en fait, on avait commencé gratuitement parce que, encore une fois, on était naïfs, on voyait N26, on voyait Revolut, on commençait à avoir toutes ces startups, en fait, qui gagnaient pas d'argent, Lydia, Pumpkin, enfin, personne gagnait d'argent à l'époque, ou en tout cas, personne n'était rentable, et tout le monde arrivait à lever de l'argent.
Et vous essayez de lever à ce moment-là?
Et à ce moment-là, on essaye de lever.
Ouais.
Et en fait, donc là, c'est un autre métier d'entrepreneur. Et sincèrement, c'était hyper difficile pour moi parce que bah, j'étais CEO et en même temps, je gérais une grosse partie de mon temps, c'était gérer toute cette stack de paiement, gérer les problèmes de paiement, gérer le, tu vois, tout le monitoring de risque, gérer le customer support. Tu vois, je me souviens à l'époque, fallait que je lève de l'argent et moi je disais mais je comprends pas comment on fait pour avoir du temps pour lever de l'affaire, quoi. Et donc je commence à essayer de le faire et je me rends compte que c'est difficile, et là je me dis je vais faire appel à un leveur de fonds parce que j'avais vraiment besoin. Et
à l'époque les business angels sont actifs ou
sont actifs, mais nous déjà on fait de la fintech, donc ça paraît complexe pour tout le monde.
D'accord.
Donc il y a pas tout le monde qui veut en faire. Et ceux qui veulent en faire, ils ont déjà quelques billes en France dans Litchi, dans Pumpkin, Lydia, les boîtes qui se créent, tu vois, Limonétique, il y en avait quelques-unes, mais ils peuvent pas se permettre de faire deux fintech B2C.
D'accord.
Dans leur portefeuille. Donc en fait, assez rapidement, on a un peu des difficultés à trouver des gens en France. Donc c'est ce qu'on disait, enfin le marché français à l'époque n'a rien à voir avec aujourd'hui, même le marché européen d'un point de vue d'investissement à l'époque, comme ce qu'on disait, c'est pas possible de faire du seed, quoi, c'est très très rare de faire du vrai seed. Donc directement on t'attend sur tes résultats. Nous on n'était pas rentable et en fait on s'était dit on peut pas se focaliser sur tout, donc on se focalise pas sur le business model, on va d'abord essayer de gagner de l'argent, on va d'abord essayer de créer une bonne UX et ensuite on essaiera de monétiser cette expérience. Et du coup moi je fais appel à un lover qui me vend du rêve dans une situation où moi je suis tu vends du rêve à quelqu'un qui est faible,
t'es aux abois, quoi.
Il est très chaud et en fait on m'a promis monts et merveilles et il s'est avéré que j'ai levé en gros 500 000 euros tout seul sans avec mes contacts et mon réseau, sans faire appel à cette personne là 500 000 euros ça, c'est pas grand chose, hein. Mais à l'époque c'était pas une petite levée, enfin c'était quand même pas mal. Et en fait à ce moment-là, ça a toujours en fait, c'était ça le truc, c'est qu'on n'a jamais eu assez d'argent pour vraiment faire ce qu'on avait envie de faire. Donc en fait, on était toujours réactif par rapport au funding et on n'a vraiment pas pu faire ce qu'on avait envie de faire. Et donc c'est pour ça en fait que on a fait cette première levée de fonds. Ensuite, on a fait un bridge Et en fait, on a décidé de se rapprocher de Linxo, qui était aussi une fintech et qui avait l'ambition de faire des cartes. Et en fait, on s'est dit, en fait, cette usine de cartes qu'on a créée, cette payment stack qui nous permet de faire tout ça, si on la mutualise avec un autre acteur, on va avoir des plus gros volumes. Et en fait, ça sera intéressant pour nous. Et surtout, en fait, Sherpé va se focaliser sur B2C, sur la marque, sur le positionnement, sur l'expérience client. Et on va diviser la boîte. Et en gros, moi, je vais m'occuper de la stack de paiement. Et Linxo va pouvoir faire sa carte avec cette stack de paiement.
D'accord. Donc, l'adossement ça fait du sens parce qu'aussi, t'as pas assez de traction pour lever de l'argent avec des VC à l'époque.
Ouais, et puis on avait.
Et tu fatigues un peu ou pas?
Moi, je fatigue, ouais.
Ouais.
À ce moment-là, ça faisait, tu vois, on a gagné 101 projets en 2013. On a monté la boîte en 2014. Là, on se retrouve à clôturer notre bridge en 2017. Et là, en fait, moi, j'en ai marre de courir après l'argent, d'avoir autant de tâches opérationnelles. Le seul truc qui nous tient, c'est les utilisateurs qui nous donnent des retours. Franchement, ouais, ils nous donnent du love. En plus, on fait, tu vois, la tagline, c'est « Make love not account », c'est tout ça. Enfin,
je me souviens même... Ça fait combien de volume? Tu te rappelles des chiffres un peu de...
On faisait à peu près 1 million par mois.
Ah, quand même.
Ouais, de volume transactionnel.
Avec combien de couples?
De couples actifs, on en avait, je saurais plus te dire, je crois qu'on en avait 1500 vraiment actifs qui payaient et qui utilisaient le Sherpé tous les jours.
D'accord.
Et donc, en fait, quand on avait nos utilisateurs, ils étaient au top. Et donc après, c'était juste une question de, il faut marketing, il faut communiquer, il faut scaler, il faut optimiser les coûts. En fait, on a fait un truc qui était, c'était bien. En fait, on a fait un énorme POC. mais il fallait qu'on fasse ce POC.
Mais les unités économiques,
en fait, moi, je m'étais dit, et je sais même pas aujourd'hui si j'ai eu raison ou pas de me dire ça, c'est, je peux pas me focaliser sur tout. Il faut que je me focalise sur l'UX.
Okay.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce message s'entend. Mais à l'époque, ce message était en fait celui qu'on nous avait un peu insufflé dans les accélérateurs, mais qui n'était pas en adéquation avec le marché français. C'était un peu comme si on avait un mindset d'américain dans un marché qui n'était pas américain. Et donc du coup, il y avait un problème. Donc maintenant, qui avait raison? Est-ce que c'est le marché ou est-ce que c'est nous? On pourra en débattre. En tout cas, le marché a évolué. Je ne sais pas si aujourd'hui ça serait plus simple, pour être honnête. J'ai pas la réponse et à la limite, tant pis. Mais voilà. Et donc en fait, on décide de faire ce partenariat avec Linxo, qui avait totalement du sens.
Qui au début un partenariat business ou un business?
En fait, non, c'est vraiment Linxo qui nous propose de nous racheter pendant qu'on fait les levées de fonds. En fait, le fondateur, qui est quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Bruno, me dit ouais, en fait, nous on pourrait regarder. Au début, c'était pour investir un peu comme un ticket, tu vois. On avait des synergies et c'était intéressant. Et puis après, ça s'est avéré être un rachat. Et donc du coup, voilà, Linxo a racheté Sherpé en mars 2018.
D'accord. Du papier, du cash ou un mix des deux?
Un mix des deux.
Ok. Donc toi, tu deviens quoi chez Linxo?
Donc en fait,
Jonas.
Ouais, c'est un truc qui est intéressant, c'est que moi, ma vraie expertise, c'était au niveau du paiement. Et en fait, Linxo, c'est aussi une grosse partie de ce qu'ils venaient chercher chez nous. Et donc en fait moi
parce que Linxo pour que les gens aussi
pardon Linxo ouais c'est une société qui ce qu'on appelle un agrégateur ou un PFM donc je sais plus comme personal finance management
comme Banking
voilà exactement donc c'est une application qui permet aux utilisateurs de synchroniser leur compte bancaire et d'avoir une vue agrégée sur leur compte.
Okay.
Et dans l'histoire du paiement en fait quand ils ont lancé ça les banques n'avaient pas d'application mobile donc en fait c'était la première proposition de valeur de Linxo c'était on vous permet d'avoir une application mobile pour gérer vos comptes. Et ensuite, tout a évolué et ils ont maturé. Ils ont dit, on peut peut-être faire un méta compte et donc faire pareil que ce qu'on fait, mais avec une petite poche de solde et avec une carte et peut-être réutiliser la technologie Sherpé pour faire en sorte que ça devienne ta carte pour tous tes comptes. En gros, c'était un peu ça la vision qu'on avait. Et donc, en fait, moi, Jonas est devenu CEO de Sherpé.
D'accord.
Et moi, je suis parti, donc j'étais toujours au board. Enfin, Jonas et moi, on a toujours resté assis à côté. Enfin, pour te dire, il habite à Neuilly, donc en fait, on passait notre vie ensemble. On se rejoignait au métro le matin, on allait au bureau, on déjeunait ensemble et on revenait, on partait chez nous, quoi. Mais c'était vraiment intéressant parce que franchement, c'était une bonne partie de ma vie et c'était vraiment des années trop bien. Mais donc du coup, voilà, chez Linxo, ça a pas vraiment changé, sauf que moi, qui m'occupais beaucoup de la stack de paiement, je m'occupais plus que de la stack de paiement. Et Jonas, qui s'occupait de à la base du produit et marketing de Sherpay, a commencé à prendre en charge les opérations. Mais là, on commençait à avoir des employés, etc. Donc, c'était un peu plus simple. Et donc, du coup...
Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a une décision de step down Sherpay, là, où t'envoies un mail. Moi, je me souviens du mail que j'ai reçu qui disait « Ok, les gars, on va arrêter le service genre dans 6 mois ou dans je sais pas combien de temps. » Et tu vois, moi je me disais, mais putain, merde, comment on va faire, quoi? Et ça, c'était à quel moment, ça? C'est tout de suite après, les mecs ont voulu débrancher, ou ça s'est...
Non, en fait, pour te dire la vérité, et je sais pas si je grille des clauses de confidentialité en te disant ça, mais ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, quand il y a eu l'acquisition,
ouais.
On a eu un épisode de fraude.
Ok.
Dans Sherpay. Et donc, assez rapidement, on a dit, ok, en fait, on prend pas de nouveaux utilisateurs.
Ok.
Ça, c'est arrivé, mais...
Un épisode de fraude qui est de quel type? Donc, des coupes, enfin...
En fait, non, c'est, dans l'expérience, toi, tu synchronisais ta carte personnelle, ta femme faisait pareil.
Ouais.
Et en fait, lorsque vous payiez, il y avait vos cartes personnelles qui étaient débitées.
D'accord.
Et en fait, il y a des gens qui ont mis des cartes volées dans le système. Ils ont bypassé, nos systèmes de sécurité. Et en fait, ils dépensaient avec de l'argent Sherpay. Enfin, ils dépensaient avec leur carte Sherpay. Nous, on débitait une carte qui était volée. Voilà.
Okay.
Ça passait. Sauf qu'à un moment donné, on a commencé à recevoir ce qu'on appelle des chargebacks. C'est-à-dire des contestations de paiement. C'est-à-dire que la personne qui s'était fait voler sa carte a appelé sa banque et a dit, c'est pas moi qui ai fait le paiement. Et en fait, de la façon dont le modèle était fait, c'était l'utilisateur qui gagnait. Et, bref, je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails, mais
okay.
Bref, il y a des détails techniques un peu plus poussés, mais c'est ça qui s'est passé. Et donc, normal, on s'est dit, on stoppe les nouveaux onboardings. Du coup, on a fait un audit, on a fait une analyse de tout ce qui pouvait se passer, and so on. Et là, en fait, en tant que Lingso, qui était pas une très grosse boîte, c'était compliqué de faire vivre deux barques B2C, parce que du coup, elles rentraient en compétition par rapport aux investissements. Donc, il y avait les deux marques B2C plus la marque B2B de Lingso, puisqu'ils fournissent leurs services en marque blanche. Et en fait, Lingso a décidé de se dire, on va centraliser nos efforts sur une solution, qui est la solution de Lingso, et on va essayer d'intégrer des modules de Sherpay. On va voir comment est-ce qu'on peut le faire, en fait. On s'est posé, on s'est dit, on va voir comment on peut le faire.
Et Lingso était adossé de son côté, ou c'était en standalone? Est-ce qu'elle y avait...
En fait, alors Lingso, à l'époque, était autonome, mais avait dans son capital, c'était assez exotique, le Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkéa.
D'accord.
Et la Maïf. Et donc c'était hyper intéressant, parce qu'il y avait des partenariats aussi corporate qui étaient liés à ça. Et il s'avère que plus tard, Lingso s'est fait racheter par le Crédit Agricole.
Ok.
Et voilà.
Ok, donc ils décident de se recentrer sur leur cœur business.
Voilà.
Donc on réduit la voilure côté Sherpay historique.
Exactement.
Ok.
Et en fait, là, ça nous fait un vrai coup dur à Jonas et moi, parce que... nous, en fait, tout ce qu'on faisait, c'était pour Sherpay, en fait. C'était ce qui est hanté, enfin, pas qui est hanté, parce que c'est qui nous animait. Et en fait, ne plus avoir Sherpay, ça a été dur, quoi. Et puis après, y a pas mal de choses qui font que c'était dur, quoi. C'était dur, on n'avait pas la même motivation, on n'avait pas... c'était un peu une fin, mais sans être vraiment une fin. Donc, c'est pas comme si tu fermes le livre, c'est que t'as encore le livre ouvert, mais t'arrives plus à lire, quoi. Et donc, du coup, en fait, moi, mon rôle, c'était vraiment, j'étais VP Payments, en fait, chez Lingso, et donc mon rôle était de gérer la stack de paiement. Et en fait, mon rôle a été de se dire, comment est-ce qu'on passe d'une stack de paiement de Sherpay à une stack de paiement Lingso Group, où on améliore tout ce qu'il y a, quoi. En fait, on passe d'un énorme POC à vraiment une V1, quoi. Et donc, en fait, moi, je rencontre les différents acteurs qui commencent à naître. Donc, tu vois, il y en a vraiment plein qui commencent à naître. Et je fais un meeting avec Antoine, donc de Checkout. Et donc, je lui dis, voilà, nous, on est un peu en train
Antoine, qui est le CEO fondateur de Checkout.
Antoine, qui était mon sales,
ton sales, okay.
Qui venait d'arriver et okay, qui, okay. Au final, était passé CEO, Head of Commercial Europe
D'accord.
Si Antoine, tu m'écoutes, désolé pour ton titre, je sais que t'as pas mal changé, je me souviens plus. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, il était Head of Commercial Europe, il me semble. Et donc, je lui dis, ouais, il faudrait que tu me réduises les coûts de check-out, on va quand même grossir, où est-ce que tu peux descendre, enfin bref, on s'entendait hyper bien. Et il me dit, ah, by the way, je lui dis, je cherche aussi à optimiser ma issuing stack. Et il me dit, ah, bah, écoute, en fait, nous, on est en train de bosser sur une solution. Et je dis, ah, bah oui, bah, je suis trop chaud pour en savoir plus, parce que moi, j'étais vraiment content de la solution de check-out. C'était vraiment un bon service. En fait, moi, j'ai vécu plusieurs étapes de la vie de check-out en tant que client. Et ça n'a pas toujours été parfait. Mais il y avait tellement un mindset positif, les gens qui travaillaient là-bas étaient tellement positifs et il y avait vraiment, c'était un bon service quoi, que j'ai vu évoluer et qui à la fin était vraiment génial parce qu'ils ont internalisé pas mal de choses. Mais du coup, quand il me dit ça, je me dis mais ça serait génial d'avoir pareil qu'en acquiring en issuing et en plus de ça avoir le même acteur, c'est-à-dire que ça m'enlève quand même pas mal de gestion de projet, de différents intermédiaires en plus. Enfin, il y avait des flux d'argent, c'était assez complexe. Et donc, je lui dis, eh bah, je suis chaud pour en savoir plus, qui je dois parler? Il me dit, bah, en fait, il y a que Guillaume, donc le CEO de Checkout, parce que c'est en fait très nouveau. Donc, je lui dis, OK. Je contacte Guillaume. Et en fait, Antoine m'avait laissé entendre que Checkout commençait à préparer une énorme levée de fonds, mais sur des choses où à l'époque, il me parlait d'une valo à 1 milliard. Moi, j'étais choqué parce que déjà, je savais pas que c'était une aussi grosse boîte. Mais du coup, il me dit ça et moi je me dis ah bah vas-y, j'ai en fait trop chaud pour rencontrer cet entrepreneur, tu vois, vraiment entrepreneur. Enfin, je pense que t'as été entrepreneur aussi. Enfin, ça fait partie de notre vie de se nourrir de la vie et des histoires des autres. Je pense que c'est pour ça que tu fais ce podcast. Voilà, j'ai eu envie de rencontrer Guillaume et en fait je lui dis bah écoute, si t'es à Paris, voyons-nous à Paris. Il me dit écoute, je suis au Paris FinTech Forum. Je me souviens, c'était en janvier donc 2019. Donc quasiment un an après le rachat, il me dit bah je suis au Paris FinTech Forum, viens on se prend un café. Et en fait on se prend un café et en fait je suis en admiration par rapport à l'histoire de ce mec, voilà, c'est vraiment un mec hyper cool, hyper smart, qui m'en dit un peu plus sur sa vie, un peu plus sur sa vie d'entreprise, et à la fois humainement, personnellement, professionnellement, en fait il y a un fit. Et à la fin du meeting. D'ailleurs, pendant ce meeting, je lui présente aussi Bruno, donc le CEO de Linkso. En fait, on fait une heure de café tous les deux, et ensuite je présente Bruno. Et ensuite, bah Bruno s'en va, et puis nous on marche vers le Palais Brongniart où il y avait le Paris FinTech Forum, et il me dit écoute, il me parle d'une boîte, il me dit qu'est-ce que t'en penses, et je lui dis écoute, je t'enverrai une analyse par email, comme ça t'auras tout ça, mais en deux mots c'est ça que je pense. Et il me dit d'ailleurs, bah, je sais que toi t'es pas au top, j'avais été assez honnête par rapport à HRP et où est-ce qu'on en était, et il me dit voilà, si tu veux gérer ce truc là c'est pour toi. Donc moi je suis hyper, tu vois, ça nourrit mon ego quoi. Puis, je suis content, et franchement je suis content de l'avoir rencontré, et je rentre chez moi et je me dis non mais je peux pas faire ça à Linkso, enfin ça fait même pas un an que j'y suis, et puis en plus je suis bad liver, j'avais aussi des clauses, donc c'était un peu compliqué. Et donc je renvoie mon analyse à Guillaume et je lui dis écoute, voilà, donc cette boîte a les plus, les moins, donc mon analyse, est-ce que tu devrais investir ou pas, et je lui dis voilà, j'ai réfléchi à ta proposition, franchement je t'apprécie beaucoup, ta boîte a vraiment une culture qui est très proche de celle qu'on avait chez Sherpay, mais voilà, je peux pas partir maintenant, donc je pense qu'on se recroisera, mais en tout cas je peux pas venir maintenant ici. Et là en fait je me souviens, donc on parlait par mail et là il me dit, je me souviens, attends, je vais switcher en anglais, et il me fait une déballe en me disant ouais, il faut vraiment que tu viennes, réfléchis bien, prends le week-end pour réfléchir, on s'appelle lundi, mais voilà, je te le dis, c'est vraiment en train d'exploser, il faut vraiment que tu viennes maintenant, tu pourras venir plus tard mais ça sera pas pareil, viens maintenant. Et là je réfléchis et je me dis bon, la vie est trop courte en fait par rapport à toute mon histoire, la vie est trop courte, prenons le risque, en fait. Qu'est-ce que je perdais un peu d'argent, mais en fait, je me suis dit bon, c'est un nouveau départ. Peut-être que j'ai besoin de fermer Sherpay. Enfin, je me remets beaucoup en question. Il y avait pas mal de trucs dans
tout
ma
ça,
vie.
Tout ça sur un week-end ou ça a duré
sur un week-end. Ouais. Sur un et week-end. Donc le lundi, je lui envoie le message et je lui dis ok, tu m'as convaincu. On se fait un call. Il m'y est trop chaud et tout. Je rencontre le DRH qui s'appelle Louis Jauvin, qui d'ailleurs est plus le DRH du Checkout aujourd'hui. Et j'adore tous les mecs que je rencontre chez Cheka. Donc je le rencontre, on parle pendant 3 heures. Et ensuite je vais à Londres, je me souviens, pour rencontrer, parce que en fait Guillaume était hyper fier, il m'a dit écoute, moi je suis chaud pour que tu viennes. Maintenant moi je suis fier, donc tu vas faire un interview process normal. Et donc j'étais à Londres pour rencontrer les autres gens de Cheka. Donc là j'arrive dans cette start-up, tu vois, où il y a à Londres headquarters, donc t'as un immeuble qui est à checkout avec une ambiance start-up, tu vois, un peu comme ce que j'avais vu quand on avait visité la Silicon Valley. Et là, j'ai des étoiles dans les yeux. Il y a ce qu'on appelle l'AEM, donc All Employee Meeting. Donc c'est là où Guillaume, il s'adresse à toute la boîte tous les mois et il raconte les news. Et là, en fait, je me dis, mais quel rêve, en fait, c'est génial ce truc-là. Et donc je rencontre d'autres personnes chez checkout. C'est marrant parce que, enfin, je rencontre, il y a beaucoup de Français chez Checkout et ça a été ma force parce qu'en fait, j'étais pas extrêmement fort en anglais à l'époque. Je pense que je l'ai un peu camouflé, mais j'étais pas extrêmement fort en anglais. Mais donc je rencontre tous ces gens-là, donc les meetings en anglais, je suis pas très à l'aise parce que je parlais en anglais, mais pas tous les jours, tout le temps. Donc j'étais pas je pouvais parler anglais, tu vois, mais j'étais pas hyper à l'aise comme je pouvais l'être en français. Mais du coup je rencontre les gens et voilà, et j'ai le job. Et je me souviens, l'une des les choses les plus difficiles de ma vie, et je crois que c'est la seule fois où j'ai fait une crise d'angoisse dans ma vie, c'est que du coup, j'ai dû annoncer la nouvelle à Bruno. Et je me souviens, donc je lui ai dit, Bruno, je peux te parler, j'avais mis un meeting, et on prenait l'ascenseur ensemble, et je tremblais, tu vois, pour aller dans la salle de réunion. Et je me souviens, j'avais le cœur qui balait à 1000 à l'heure, j'étais la bouche sèche, enfin c'était...
Mais parce que tu le kiffais, enfin c'est quoi le...
Parce que j'avais du respect pour lui, parce que d'accord. Tu vois... imagine, tu rachètes une boîte.
Ouais, il t'a fait confiance, quoi.
Il m'a fait confiance, et t'as un vesting sur 4 ans, et t'as le mec qui se casse au bout d'un an, quoi. Donc il était conscient que j'étais pas super heureux. Je pense que on lui avait un peu dit avec Jonas. C'était une période de flottement. C'est très dur de racheter une boîte, surtout quand t'es petit. Tu vois, il y avait 100 personnes chez Linkso, donc c'est assez dur, quoi, de le faire bien. Et donc il m'avait dit, sois patient. Et en fait, j'ai eu cette opportunité. Donc j'avais vraiment le truc de me dire, moi, j'ai pris ma décision, je vais y aller. Mais j'ai ce truc-là difficile d'enlever l'esparadrap. Il faut que je le fasse. Et donc je l'ai fait. Et puis en juin 2019.
Et par rapport à Jonas.
Alors en fait, Jonas, c'est vraiment, tu vois, j'étais son témoin de mariage. Donc j'ai dit à Jonas, écoute. Alors j'ai dit deux trucs. En fait, je lui ai dit, écoute, moi, je vais partir. Enfin, j'ai pris ma décision. Enfin, je veux dire, je l'ai tenu au courant. Enfin, Jonas, oui, c'est comme mon frère, en fait. C'est ça.
Okay.
C'est-à-dire que j'avais pas de secret vis-à-vis de lui, tu vois.
Okay.
C'est vraiment une très bonne relation. Et par contre, et je lui avais dit, voilà, par contre, Guillaume, il m'a dit, prends des gens avec toi, quoi. Donc, qui tu veux, si t'as des gens, prends-les dans ton équipe. Donc, j'avais dit à Jonas, si tu veux, tu peux venir aussi, quoi. Et il m'avait dit, écoute, non, moi, je pense que je vais pas, pour l'instant, je suis plus chaud pour remonter un projet. Donc, Jonas a continué un peu chez Linkso, un peu plus que moi, un an plus que moi. Et moi, j'ai rejoint Checkout en juin 2019.
D'accord.
Donc un peu plus d'un an après avoir vendu Sherpay.
Et pour prendre quelle responsabilité, quel sujet ?
Alors en fait, c'est marrant parce que moi, pourquoi j'étais embauché ? C'est parce que j'étais un entrepreneur, que j'avais monté un truc assez costaud quand même, d'un point de vue paiement, et qui d'ailleurs était salué par tous les gens paiement. En fait, tous les gens paiement de France nous connaissaient même d'ailleurs. Mais c'est vrai, d'un point de vue consommateur, on était moins connu que d'un point de vue des gens comme ça. Et donc, je pense qu'il s'est dit, ouais, ce mec-là a réussi à faire from scratch avec pas beaucoup de moyens un truc assez smart. Qu'est-ce que ça peut être si je lui donne les moyens de checkout avec le scale de checkout qu'on est en train d'avoir?
Il y avait combien de personnes à l'époque là quand t'arrives?
Donc moi, j'arrive en juillet 2019.
Ouais.
Et il y avait 350 personnes. Donc d'accord, on venait de faire la série A. Donc la première levée de fonds de Checkout, je crois qu'on avait levé de tête 250 000 dollars sur une valo à 2 milliards. 250 millions de dollars, pardon, sur une valo à 2 milliards. Et donc en fait, j'arrivais aussi dans une boîte avec 350 personnes, mais vraiment un esprit, je sais pas comment dire, c'était vraiment la conquête. Moi j'avais monté ma boîte jusqu'à 300 personnes, j'aurais adoré qu'elle soit comme ça, en fait.
Ouais, conquête.
Mais hyper humble, tu vois, enfin. Un petit mot sur Guillaume. Moi, c'est un truc qui est hyper important pour moi. C'est vraiment regarder les gens et traiter les gens de la même façon, quels qu'ils soient, tu vois. Et même moi, aujourd'hui, on parle de diversité. Enfin, moi, c'est inné pour moi. En fait, je vais pas, ça fait vraiment partie de moi, tu vois. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie dans ma vie. Et je me souviens quand j'avais été, je crois que c'était à cette fois-là, j'avais vu Guillaume qui parlait avec la femme de ménage, donc, qui avait chez Checkout et qui lui demandait sa vie et comment ils vont tes enfants et tout ça. là, je me suis dit, bah, en fait, ouais, en fait, c'est moi, en fait. Cette boîte, je suis chez moi, en fait. Et les la culture de cette boîte-là, les trois valeurs qui sont Unite, qui est, donc, on est unis, Excel, ça veut dire, genre, on excelle dans tout ce qu'on fait, on est carré, on laisse pas de place à l'approximation. Et Aspire, qui est plus, y a pas de limite à nos ambitions, on touche touch the sky, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est des trucs qui me parlent vraiment, et je sais pas si j'aurais donné les mêmes, valeur à ma boîte, mais en tout cas, cette boîte-là était là. Et donc, moi, j'ai été rejoint parce que Guillaume avait envie de lancer l'émission. Donc, cette offre, en gros, nous, Checkout, on est aussi vu comme la fintech des fintech. Donc, c'est-à-dire que t'as pas mal de fintech qui passent par nous.
Un mode B2B.
Voilà, exactement. Et donc, ces fintech, il y en a plein qui émettent des cartes. Et donc, Checkout a reçu pendant toute sa vie l'histoire de « Ouais, je suis trop content de vous sur la partie acquiring, mais si vous saviez comment c'est pénible sur la partie issuing, qu'il avait envie de lancer cette offre issuing. » Et il s'est dit « Il y a un mec qui s'y connaît, que j'apprécie, qui est un entrepreneur. » Il m'a présenté le rôle d'ailleurs comme un mini CEO chez Checkout, et il m'a dit « Voilà, tu pars d'une feuille blanche. » Je partais pas d'une feuille blanche parce que il y avait déjà une équipe qui commençait d'un point de vue purement certification avec les réseaux Visa Mastercard à travailler sur le projet, mais en fait c'est transforme-moi cette idée en un business.
Ok.
Et c'est ça, c'est pour ça que j'étais embauché chez Checkout.
D'accord. Donc là t'as puisqu'il y a 250 millions en banque, là t'as carte blanche pour donc tu dois délivrer un plan. C'est quoi les 100 premiers jours dans lesquels t'as une petite pression là où tu te dis
En fait j'arrive. Et
t'arrives à Paris ou t'arrives?
Non, j'arrive. En fait, donc du coup, je suis embauché. On m'avait dit tu préfères être à Paris ou tu préfères être à Londres. Donc moi, en fait, j'ai vécu donc chez ma mère jusqu'à 29 ans, jusqu'au. Enfin, tu vois, Lingso nous a racheté en mars 2018. Moi, je vivais chez ma mère. J'étais au RSA, tu vois. Enfin, on se payait pas avec Sherpé. Et donc première chose, c'est aussi dans ma culture familiale. En fait, tu t'achètes un appart. Et donc du coup, j'avais un peu d'économie. J'avais un salaire maintenant, donc tu pouvais avoir un prêt. Enfin, je veux dire, acheter un appart aujourd'hui, c'est pas tous les gens qui sont salariés peuvent s'acheter un appart, quoi. Et donc en fait, première chose, j'achète mon appart et donc je l'achète en, on se fait racheter en mars, en septembre octobre, je signe mon appart, quoi. Et donc en fait, je déménage dans mon appart en février 2019. Et donc, quand Guillaume, en mars-avril, me dit, tu veux aller à Londres, ou, enfin, t'es ok pour aller à Londres, ou tu préfères rester à Paris et aller souvent à Londres, je dis, honnêtement, je viens d'avoir mon appart, je préfère rester à Paris, quoi.
Ok.
Et donc, du coup, bah, en fait, il me dit, c'est marrant, mais il me dit, je vais te faire un plan sur les 100 jours sur ce que tu veux que je fasse. Finalement, j'ai pas eu ce plan. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, il y avait un mec que j'adore qui s'appelle Washil, qui est un peu le génie de Checkout. Donc c'est lui qui a créé le processeur du côté acquiring chez Checkout, qui a commencé à partir sur la partie issuing, et ça devient mon binôme, où en gros c'est un peu le CTO qui est le mec le plus knowledgeable sur le paiement que je peux connaître.
Ah ouais.
Vraiment, c'est dans ma vie, j'irai jamais rencontrer personne comme ça, et je pense que j'en rencontrerai pas. Enfin franchement, c'est le mec le plus balèze. Enfin, c'est-à-dire que tu vois les réseaux Visa Mastercard, ils communiquent avec des champs. Et lui, il connaît tous les champs par cœur. Et c'est un peu du binaire. Il sait de dire, ouais, ça, c'est, quand c'est un, ça veut dire ça. Enfin, par cœur, quoi. Donc, moi, qui ai pas une bonne mémoire, je suis admiratif de sa mémoire, je suis admiratif de sa connaissance. Et le mec, en fait, on s'entend hyper bien.
C'est un tech guy.
C'est un tech guy, donc, qui est basé à l'île Maurice. Et avec qui on passe, donc, lui, il passe pas mal de temps avec moi à Londres. Moi, je fais 2 mois à Londres, du coup. Où je commence à travailler avec les autres équipes, puisque toutes les autres équipes étaient là. Et, voilà, ma mission, c'est, tu crées issuing from scratch. Et donc, j'ai commencé le discovery. C'est vrai, au début, je savais pas trop quoi faire. Je me posais des questions, tu vois. À la limite, il était 5 heures, j'avais plus rien à faire. Je me disais, est-ce que je pars? Est-ce que je fais bonne impression? Un peu comme les trucs de salarié de base. Et en fait, très, très rapidement, j'ai commencé à créer la vision, créer la mission, créer, comment est-ce qu'on va le faire? Quels vont être nos premiers clients? Comment est-ce qu'on va découpler ça? Et en fait, commencer à recruter une équipe, et donc en fait, on a commencé à construire l'équipe, une deuxième équipe à Paris. On a continué à grossir l'équipe à Maurice. Et puis avec le temps, on a eu des gens à Tallinn, puisqu'on a des bureaux à Tallinn. On a des gens à Londres. Assez rapidement, en fait, moi j'ai été embauché en tant que VP Product chez Checkout. Sauf qu'en fait, on m'a donné le rôle de lancer une initiative. Ça veut dire que j'avais la casquette de tu dois créer
Launcher.
Ce business.
Ouais.
Et donc il y a des aspects légaux, il y a des aspects réglementaires, il y a des aspects financiers, il y a des aspects risques. enfin, t'as tous ces trucs-là, et t'avais la partie produit qui était vraiment ce que je devais faire. Sauf que je me suis dit, moi, je suis entrepreneur, je sais que le faire comme ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais embaucher des gens dans la partie produit et tech qui vont prendre le bateau, je vais embaucher un mec dans la partie opération qui va gérer les opérations, et moi, je vais continuer à agir en tant que mini-CEO. Donc en fait, j'avais pas vraiment de guidelines à l'époque. En fait, on n'avait pas de, enfin le CPO est parti, donc on n'avait pas de CPO, et donc on n'avait pas forcément des normes ou guidelines sur comment faire. Et donc moi, je l'ai fait un peu.
T'as crafté quoi.
Ouais, j'ai crafté et puis je l'ai fait avec en mode qu'est-ce que je pense être le plus d'une manière pragmatique.
Ouais.
C'est quoi la meilleure solution. Et donc j'ai construit la solution comme ça. Et ça a bien marché puisque. En fait, on a lancé la private beta l'année dernière, en 2021. On a eu des résultats beaucoup plus, enfin, on a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc, hyper, hyper successful. Et c'est là où, en fait, le truc qui change, c'est que, moi, j'avais un rôle de VP product. Mais en fait, comme ce que je te dis, enfin, moi, je suis plutôt un entrepreneur qu'un VP product. Alors après, avec tout ce que j'ai appris sur le product, je pense que je m'y connais très bien en customer centric approach. Je pense que voilà, d'un point de vue paiement, ça fait tellement, voilà, je suis vieux maintenant, mais tu vois, ça fait 8 ans que je suis dans ce truc-là. Je connais vraiment pas mal de trucs, quoi, et je sais, tu vois, te donner une vision hyper simple et aller dans les détails. Enfin, je sais vraiment faire tout. Et donc, en fait, ouais, on m'a dit, ouais, mais tu peux pas être VP product et pas agir en tant que VP product. Et donc, voilà, là, on est en train de, en interne, d'essayer de voir comment est-ce que, en fait. Maintenant que j'ai crafté ce business, comment est-ce qu'on fait pour le faire scaler? Et c'est le point où on est aujourd'hui, donc j'ai pas de réponse à te donner sur c'est quoi la réponse.
D'accord.
Mais voilà, en fait, moi j'ai encore ma mission, tu vois, là on a lancé la private bêta, j'espère lancer la public bêta en fin d'année. On a pas mal de, enfin, on a un chemin qui est très très long, moi j'ai une vision très très claire de là où je veux aller. Et en fait, moi, ce qui me drive, c'est la mission. Ma mission, c'est d'arriver là, qu'on change de titre et tout ça. Tant qu'on me donne les outils pour me permettre d'y arriver, j'en ai sincèrement rien à faire. Et je veux juste, je suis un entrepreneur, en fait. Et je m'en rends compte, plus j'avance, plus je suis un entrepreneur. Je
sais. T'as une énorme autonomie, finalement, dans ta mission et dans les moyens que t'as. Tu gères ton budget, ton recrutement, tes deadlines, comme
ça. Ouais. Alors, j'ai pas de budget, mais je suis pas nos limites. Donc, en fait, c'est le seul, peut-être, point de friction que t'as par rapport à quand t'es un entrepreneur. Quand t'es un entrepreneur, t'as un budget, tu sais que tu lèves, tu sais ce que t'en fais. Moi, c'est un peu, j'ai besoin de ça, donc je le demande. J'ai besoin de ça. Et en vrai, on me dit tout le temps, soit oui, soit, là, t'as besoin de 4 développeurs, on va t'en donner 2. Tu vois. Et aussi, enfin, faut comprendre que même si on a pas mal d'argent, enfin, Checkout, c'est une boîte rentable depuis le temps, donc en fait, on n'est pas en mode, on n'a pas une culture de brûler du cash. Et aussi, on a un département pour, enfin, le recrutement, je pense que c'est le sujet numéro un de toutes les startups. Et puis, plus il y a de startups, plus ça devient chaud de recruter. Donc, plus le recrutement est un buzzword pour toutes les startups. Et donc, nous, on est une grosse startup, mais on a des besoins de recrutement dans tous les départements. Donc t'as aussi un backlog, on va dire, des besoins.
D'accord.
Et l'équipe People Acquisition qui va dire en fait on prend ça. Donc même si t'as 10 personnes, tu les as peut-être pas forcément approuvées, je veux dire, tu les as peut-être pas forcément carrées.
D'accord. Et donc là les challenges à venir, tu disais que vous alliez ouvrir la bêta en public d'ici la fin d'année.
Ouais.
Toi t'es 12 prochains mois là, c'est
ouais, en fait on a plusieurs use cases Et donc on a commencé avec un use case. En fait, moi je suis hyper pragmatique dans tout ce que je fais, et je pense que c'est une des forces que j'ai et que c'est pour ça qu'on m'aime bien dans cette boîte, c'est que moi j'ai toujours une vision long terme et comment je fais pour me réveiller demain et aller à la prochaine étape. Et donc en fait j'ai créé un parcours qui nous permet de continuer à grandir, d'avoir des retours utilisateurs, de processer de plus en plus de volume de transactions, tout en shippant des features qui nous permettent d'adresser le use case qu'on a target et qu'on a celui qu'on veut adresser en Q4 et on attend de pouvoir adresser ce use case là pour pouvoir faire le lancement public parce qu'on n'a pas envie de lancer publiquement donc notre solution, que les gens aient des attentes qu'on va pouvoir les aider et qu'en fait on leur dise non, vous en fait on peut pas vous aider quoi. Donc on a envie d'arriver à j'ai envie d'arriver à une certaine maturité dans cette solution pour pouvoir pour pouvoir vraiment que quand tu ailles sur notre site web et que tu dises ouais je suis chaud pour les utiliser, en fait t'as 99% de chances qu'on puisse t'accompagner. Mais donc c'est comme ça qu'on avance. Donc là les prochains mois c'est vraiment continuer à être hyper près de nos premiers utilisateurs, c'est clé. Enfin c'est pas toi que je vais l'apprendre. Et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là ici, c'est parce que j'étais hyper proche de toi en tant qu'utilisateur de Charmé. Mais du coup voilà, être proche de nos utilisateurs. Faire en sorte aussi de scaler l'équipe, parce que je peux pas être le single point of failure. Donc c'est-à-dire que moi, ma façon de faire les choses, c'est que on défriche les sujets. Je suis en train de faire en sorte que les gens qui sont juste en dessous de moi puissent maintenant commencer à défricher les sujets tout seuls. Ils sont beaucoup plus impliqués dans la stratégie de tout ça. Et donc on avance sur les clients qu'on a. On est hyper hands-on avec eux. Moi, je leur laisse maintenant. J'ai plus besoin d'être impliqué. Donc, on a un process d'onboarding qui nous permet d'onboarder des nouveaux gens sans que je sois impliqué, mais que les équipes produits soient hyper impliquées. Comme ça, ils sont hyper proches des clients et c'est ça qui fait notre valeur. Moi, je commence à défricher les nouveaux clients avec les product leaders et tech leaders et les operation leaders de Issuing. Et dès que c'est bien, tac, je drop et je passe et je suis plus là en mode à dire comment on grandit, comment on scale. Alors que sur les nouveaux use cases, je suis plutôt en mode apprenons. Donc j'ai toujours cette double casquette, et donc jusqu'à la fin de l'année, c'est comme ça qu'on va évoluer.
C'est super intéressant. Écoute, moi j'ai une question là que j'aime bien poser, qui est tu comprends souvent en fait les cultures de boîte et comment finalement le cercle très proche des fondateurs ou du fondateur en l'occurrence se crée autour de tu vois, des crises ou des énormes enjeux que les boîtes peuvent vivre. C'est quoi un des enjeux ou une des crises ou un des trucs où tu dis, ah ouais, putain, ce truc-là était super showtime et on a réussi tous ensemble à le craquer. Ça m'intéressait de comprendre.
Dans la vie de Checkout, depuis que j'ai rejoint, franchement, on est vraiment en croissance.
D'accord. C'est la vie en rose du...
Alors, c'est la croissance. Maintenant, derrière, il y a des problèmes. On a eu, comme toutes les boîtes, en fait, on est en éternel chaos, tu vois. Mais je veux dire, on n'a pas eu de grosses péripéties qui ont cassé quelque chose, quoi. Les trucs qu'on a, c'est que aujourd'hui, du coup, on passe dans une autre échelle, tu vois. Enfin, on pèse 40 milliards. On a une vision d'avancer. Je pense qu'à un moment donné, on va arriver vers une IPO. Pas demain, mais à un certain moment. Donc, on est vraiment en train de structurer la boîte. Et je pense qu'on est vraiment en train de passer une étape, de se dire comment est-ce qu'on fait pour passer d'une boîte d'entrepreneur à une boîte qui peut faire une IPO, quoi. Et donc, du coup, tu vois, en un an, t'as toute la C-level qui a changé.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, en fait, le challenge aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on devient corporate tout en gardant notre culture. Ça, c'est ce que moi, je vois comme challenge. Et je trouve qu'on le fait pas trop mal. Mais c'est ça le challenge. C'est comment est-ce que tu fais pour rencontrer, maintenant, les gens qu'on recrute, tu vois, surtout sur ces postes-là, c'est plus des entrepreneurs, c'est plus des jeunes gens fougueux, tu vois, c'est plutôt des gens qui ont l'expérience, qui ont plus d'expérience que le CEO, parce que voilà, le CEO, il a jamais monté une boîte comme ça.
D'accord. Donc, il y a eu toute la vague, finalement, tu faisais partie, j'imagine, des premiers, il y en a peut-être eu avant toi. Puis après, il y a eu toute la vague process out, là, qui, ouais. Je pense qu'on en écoutera un certain nombre. Il y a eu d'autres achats comme ça de top talents très jeunes qui sont arrivés dans l'aventure.
C'est plus le cas, en fait.
C'est plus le mindset.
Non, maintenant, le mindset, c'est, on a toujours, enfin, les leaders d'aujourd'hui sont plutôt des gens qui ont de l'expérience de bosser pour des scale-up. Donc, tu vois, on a des gens qui viennent de Booking, qui viennent de Google, qui viennent d'Amazon, qui viennent de Facebook. On est en train de, en fait, on level up. C'est ça aussi, c'est qu'on level up les expectations. On level up aussi tout ce qui est notre façon de travailler. Et donc là, moi, je vois vraiment la boîte passer d'une boîte qui était en hyper croissance avec peut-être, tu vois, tout ce qui était opération. Enfin, on a toujours été très très fort dans le service client et tout ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue opération, on était un peu en retard par rapport à notre croissance. Et là, l'idée est de se dire comment on est best in class dans tout ce qu'on fait. On est hyper carré, on est hyper donc on structure. Donc là, on a plutôt des gens qui viennent nous faire passer à l'étape scale up, quoi. Et enfin, je sais pas si on l'est déjà, mais tu vois vraiment structuration.
Enterprise.
Quoi. Enterprise. Et donc le challenge, c'est garder la bonne culture avec des gens enterprise. Et franchement, jusqu'aujourd'hui, les C-level qu'on a recrutés sont vraiment des, ouais, ils ont le bon mindset quoi. Ils sont, c'est un peu des gens voilà qui ont la culture, mais qui l'ont d'une manière un peu différente quoi. Enfin, et qui vont nous apprendre aussi. Enfin, tu vois, quand notre CPO, il vient de Facebook. Donc, bah, quand t'as le CPO qui vient de Facebook, qui t'apprend à faire du product crafting en mode Facebook-like, tu passes un, enfin, moi qui adore apprendre et ça fait partie des trucs, des drivers que j'ai, je veux continuellement apprendre. Là, moi, je suis aux anges, en fait. Je me dis, bah, ce que j'apprends là, ce que je vis là, c'est une expérience qui est hyper valuable et que je suis trop content, quoi. C'est comme si je reprenais des études en mode appliqué et je suis vraiment trop content.
Et dans la communauté checkout, on sent qu'il y a aussi un espèce de, il y a une mafia quand même, il y a quand même des gens dans le paiement en fait, c'est quand même connu que vous êtes vraiment en avance de phase. Comment toi tu, est-ce que tu arrives à reconnaître finalement cette espèce d'alumni qui font qu'en fait on sent qu'on est on est tous passés par là, ou alors on fait partie de cette bande, cette culture là qui se dessine pour toi ou pas?
C'est vrai que ça fait vraiment partie de la culture, parce que déjà tu vois, checkout par essence, ça a été la fintech des fintechs. Moi, je t'excusais, Stripe m'a refusé, Checkout m'a accepté, quoi. Et avant que Stripe m'accepte, j'avais fait le tour de tous les trucs, personne voulait m'accepter, donc ça fait partie. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, on est numéro, enfin, crypto, on est très fort sur crypto, tu vois, ça fait partie des choses sur lesquelles on se positionne. Donc en fait, depuis le début, il y a toujours eu ce truc-là de se positionner un peu en tant que challenger du statu quo. Et du coup, bah moi, en fait, je suis un très bon exemple de ce truc-là, parce que tu vois, le truc que j'ai montré avec Sherpé, on va dire qu'on était à la limite de ce qui était possible et à la limite de ce qui était réglementairement autorisé. Process out, c'est aussi, tu vois, un truc. Enfin, ils t'en parleront. Enfin, je pense que tu connais. Ils en parleront mieux que moi, mais on est aussi sur quelque chose d'assez innovant,
ouais,
d'assez avant-gardiste sur le paiement. Donc en fait, t'as checkout qui a cette culture, puisque c'est pour ça que c'était, enfin tu vois, fintech of fintech. De l'autre côté, t'as des gens comme moi qui ont été embauchés, t'as une boîte comme Processout qui est arrivée. Donc en fait, par essence, on a ce truc là et c'est pour ça qu'on est successful, et c'est aussi pour ça que les investisseurs croient en nous. C'est parce que on a peut-être pas encore les volumes de nos compétiteurs, mais on a cette force, cette traction, cette énergie, oula, et cette culture,
ouais,
qui font que on garde cette place.
Bon, on arrive au bout. Franchement, c'était super intéressant, parce que finalement, moi, j'avais pas l'envers du décor de toute cette histoire et des dessous de ça. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Je te remercie beaucoup pour.
Eh ben, écoute, ça m'a fait très plaisir.
Pour ce partage, c'était super. Et puis, je te dis, longue vie à Checkout et tous les challenges que tu vas vivre, parce que je pense que on entendra parler et de Checkout et de toi dans les prochaines années, c'est sûr.
Eh ben, écoute, j'espère. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'interviewer. J'étais ravi de t'en dire un petit peu plus.
Merci.
Et de te présenter l'envers du décor.
À très vite. Un grand merci pour votre écoute. J'espère, comme moi, que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.